Dieu connaît tout parfaitement. Vous savez que la Bible nous dit qu'il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. Pour certains, c'est facile à compter. Pour d'autres, ce serait plutôt un vrai casse-tête. On pourrait s'amuser à les compter, on risquerait vite d'être découragé, de s'en mêler les pinceaux ou les cheveux. Pour ma part, je ne me suis jamais amusé à les compter, mais je trouve que c'est une belle illustration pour approcher notre compréhension de la profondeur de la connaissance de Dieu, car elle va bien plus loin que cela. Dieu connaît le nombre de cellules que nous avons en nous. Il connaît la composition de toutes les parties de notre corps parfaitement. Il connaît toutes les molécules, les atomes, les électrons, tout ce qui compose tous les objets qu'il y a autour de nous. En fait, il sait exactement tout cela et si je devais parler en termes de développement informatique, je dirais qu'il a le code source de tout ça. Et cela reste un mystère pour nous. En fait, pour Dieu, il n'y a aucun mystère et non seulement il sait de quoi tout est composé, mais bien plus encore, il sait tout de nos vies, des choses les plus passionnantes aux choses les plus futiles. Il sait ce qu'on a mangé ce matin avant de venir, la température de notre café. Il connaît toutes nos pensées, même les plus futiles donc, même les plus éphémères, et cela à n'importe quel moment de notre vie, hier, aujourd'hui et demain. Et c'est pourquoi il est le juste juge, c'est pourquoi il est le seul qui est apte à juger, parce qu'il connaît tout justement parfaitement. Il n'y a qu'à travers une connaissance parfaite que l'on peut être juste dans toutes nos décisions et dans nos jugements, n'est-ce pas? Donc tout cela, c'est très logique. Alors vous savez, la première fois que j'ai eu conscience du fait que Dieu est là, qu'il est réellement présent, que Jésus est là à chaque instant, et que quoi que l'on fasse, on ne peut rien lui cacher, qu'il s'agisse de nos pensées, de nos paroles, de nos actes. Quand j'ai compris qu'il sonde les cœurs au plus profond de notre être, la première fois que j'ai ressenti cela, eh bien, c'était une sensation peu commode. J'ai ressenti cette mise à nu. Vous savez, dans le livre de la Genèse, après avoir mangé le fruit défendu, il nous est dit que les yeux d'Adam et d'Ève s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et quelque part, c'est cette conscience-là, cette mise à nu. Il n'y a plus d'espace privé, il n'y a plus d'intimité. Et à travers cela, on se rend compte que finalement, nous n'avons pas de jardin secret en nous. Nous avons un jardin personnel, mais rien n'est secret devant Dieu. Donc je suis un livre ouvert pour Dieu. Je ne peux rien lui cacher, nous ne pouvons rien lui cacher. Et ce jardin personnel que nous avons en nous, c'est tout ce qui constitue notre être. Notre pensée, notre connaissance, les souvenirs que nous avons vécus, les bons moments, les mauvais moments, nos émotions, nos joies, nos pleurs, nos douleurs, les moments d'extase, de fou rire, tout ça, c'est quelque part en nous, dans notre jardin personnel. Et même au sein de ce jardin personnel qui est le nôtre, nous devons bien reconnaître que nous ne maîtrisons pas tout. Nous en avons une connaissance partielle parce que tout ce qu'on vit, ça nous impacte sur le moment présent. Et après, ben, on cumule d'autres choses. Certains détails perdent de leur substance, d'autres passent aux oubliettes, d'autres sont fusionnés entre eux. Parfois, il m'est arrivé de tomber sur un travail que j'avais fait il y a une dizaine d'années et j'ai reconnu ma patte. Je sais que c'est moi qui l'ai fait. Mais mes souvenirs, dans mes souvenirs, impossible d'en retrouver la trace. Donc tout ça pour illustrer que ma propre connaissance de ma vie, eh bien, finalement, elle est partielle. Dieu nous connaît pleinement mieux que nous-mêmes, car lui détient réellement l'objectivité sur toute notre vie. Et le Saint-Esprit peut pointer du doigt un souvenir enfoui dans notre jardin, un souvenir dont je ne me souviens pas. Et je ne sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais c'est impressionnant. Et hop, quelque chose comme ça qui remonte à la surface alors qu'on n'y a jamais repensé depuis qu'on l'a vécu. Donc Dieu a accès à notre jardin personnel. Et bien sûr, on peut donner accès à d'autres personnes. Je peux partager des choses de ma vie. Je pense au couple, aux familles notamment, aux amis, à votre coiffeuse, à votre médecin aussi, aux pharmaciens pour tout ce qui touche à votre santé. Mais quand on partage des choses en toute sincérité avec d'autres personnes, elles perdent aussi également de leur authenticité. Elles peuvent être interprétées différemment selon les personnes et selon la manière dont on les raconte. En définitive, la seule personne qui connaît toutes choses parfaitement, c'est Dieu. Alors ainsi, La première fois que j'ai intégré pleinement cette notion d'omniscience de Dieu, de connaissance globale sur ma vie, eh bien, j'ai éprouvé un sentiment que la Bible intitule « la crainte de l'Éternel ». Et dans la crainte, il y a ce sentiment d'être tout petit en face du Dieu tout-puissant. Il y a le fait de reconnaître sa faiblesse, sa petitesse, mais aussi et surtout cette crainte, eh bien, elle s'accompagne d'une conviction, comme nous le décrit l'évangile de Jean. Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc devant Dieu, je suis pécheur. Et là, à ce moment précis, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu repenses à plein de choses que tu as vécues, que tu as faites, que tu as dites, des choses que tu regrettes, et tu viens devant Dieu et tu lui dis « pardon ». Je ne savais pas où, je n'avais pas pleinement conscience ou tout simplement, là, j'avais pas d'excuse pour ça. J'ai mal agi et je le sais. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit ne vient pas pour nous accabler. Là où parfois notre propre conscience nous rabaisse parfois 6 pieds sous terre devant la majesté de Dieu, le Saint-Esprit, quant à lui, vient en consolateur. C'est à bras ouverts que Dieu attend le retour de ses enfants à lui, ce n'est pas les bras croisés. Et là, à ce moment, c'est l'expérimentation de la chose la plus merveilleuse qui existe. C'est l'expérimentation de l'amour parfait de Dieu. Et ce qui est magnifique avec le Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Père, l'Esprit du Fils, c'est sa manière de nous apprendre l'amour parfait de Dieu. Dans la première épître de Jean, il est écrit au chapitre 4, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et donc à ce moment, le Saint-Esprit vient véritablement consoler, il vient effacer l'ardoise en quelque sorte, il vient montrer l'amour que le Père a pour toi, pour moi. Et c'est à ce moment où Jésus vient en disant « ce n'est pas grave, car j'ai déjà tout fait pour que tu puisses venir à moi. J'ai déjà tout donné pour te sauver. » Tu as juste à me laisser entrer dans ton cœur, c'est tout. Ce que je vous décris là, c'est une expérience personnelle, bien sûr, qui a duré peut-être quelques minutes, la première rencontre personnelle avec Dieu. Il peut s'en passer des choses en quelques minutes, parfois plus qu'en quelques années. Et là, on peut se rapprocher un peu de la notion du temps selon Dieu. Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Je vous propose une lecture maintenant pour approfondir notre sujet. Quelques versets qui illustrent magnifiquement tout cela. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour ceux qui les ont dans l'Évangile de Jean au chapitre 8. Et nous lirons les versets 1 à 11. Il s'agit du passage de la femme adultère. Jean chapitre 8, verset 1 donc. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit « « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée ?» Elle répondit « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Je trouve que ce passage est très beau. C'est déjà un sauvetage merveilleux. Ce n'est pas pour rien que Yeshua, c'est le Dieu sauveur, le Dieu qui sauve. Et Jésus fait usage d'une rhétorique qui est toujours très impressionnante. Tout au long de la Bible, on retrouve l'idée du mariage, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On retrouve des alliances entre l'homme et la femme, entre Dieu et son peuple, et on trouve des trahisons aussi. Et cette femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Elle a trahi son mari, donc peut-être aussi ses enfants, sa famille, on ne sait pas. Et c'est une forte trahison dans le cœur de Dieu. Dans la Bible, le couple, l'amour du couple et l'amour de Dieu sont très proches. Lorsqu'on lit dans Deutéronome, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Ici en hébreu, le schéma Israël, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu qui est Elohim en hébreu, qui est un Dieu pluriel, ce que nous appelons, nous, dans les milieux chrétiens, la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tous trois sont unis par un amour indissociable. Ils forment une unité qui, en hébreu, est caractérisée par le mot Echad. Dieu est un. Et de la même manière que Dieu est un, dans le livre de la Genèse, nous pouvons lire qu'au sein du couple, les deux deviendront une seule chair. C'est le même mot en hébreu. Les deux seront Echad, une seule chair comme Dieu est Echad. L'amour qui unit le couple forme donc cette unité indissociable, bien qu'ils soient issus de deux personnes différentes. Ils sont un, et de ce fait, cette trahison est très grave. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, lorsque les pharisiens lui parlent de divorce, leur dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. » Et plus loin, il dira « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. » Au commencement, il n'en était pas ainsi, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. L'adultère, c'est donc une forte trahison pour le Seigneur. C'est une trahison qui a de lourdes conséquences, et nous le voyons malheureusement tous les jours. Une trahison qui brise les cœurs, qui brise les couples, qui brise les familles. Et donc cette femme, dans notre passage, n'est pas innocente. Elle est coupable de ce dont on l'accuse. Et c'est vrai que lorsqu'on se reporte au livre du Lévitique, il est écrit « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Et Jésus connaissait très bien cette loi. Mais il surprend ici les accusateurs, car il sait que, et nous pourrons le lire dans Romains, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Jésus ici rétablit la réalité concernant le péché. Il leur montre que devant Dieu, il n'y a pas un seul juste et tous reçoivent dans leur conscience cette conviction de péché, de justice et de jugement. Et tous disparaissent les uns après les autres. Jésus a sauvé la vie de cette femme, il a fait fuir ses accusateurs, mais bien plus encore, il termine en lui disant « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Il connaît son cœur, il est le juste juge. Jésus nous dit que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Il dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Dieu vient auprès de ceux qui ont besoin de lui et il nous emmène à être renouvelés, à être comme lui, rempli d'amour, de miséricorde, de compassion. Lorsqu'on lui demande « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement, c'est le schéma qu'on a lu tout à l'heure. Mais il dit « Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jésus résumera ainsi toute la Torah et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit là de commandements. Il ne s'agit pas d'une option, il ne s'agit pas d'une suggestion. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alors aimer Dieu quand on est chrétien, j'ai envie de dire, ça fait partie de notre ADN. Nous louons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Nous le glorifions. Nous aimons être dans sa présence. Nous aimons regarder à lui. Nous aimons être à son écoute. Et nous essayons de faire au mieux pour être à son écoute. Mais Jésus nous dit que le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là, c'est vrai que c'est pas toujours aussi facile. Il est facile d'aimer lorsqu'on se sait aimer en retour. Mais Dieu n'a pas attendu l'amour des hommes pour nous aimer. La Bible nous dit qu'il nous a aimés tous le premier. Et ainsi Jésus nous bouleverse dans son serment sur la montagne, évangile de Matthieu, chapitre 5, lorsqu'il nous dit « Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. » Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Un amour parfait, voilà l'attente de Dieu à notre égard. Un amour parfait envers lui, mais aussi un amour parfait envers tous. Sommes-nous des disciples de Jésus? Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » D'une certaine manière, accomplir ce qui a été dit dans le discours sur la montagne, c'est se charger de sa croix. D'une certaine manière, aimer en toutes circonstances, c'est se charger de sa croix. L'amour de Dieu est intimement lié à l'amour des hommes et il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre choix que d'aimer. Et c'est pourquoi il faut porter sa croix, secouer la poussière de nos pieds et avancer, mais ne jamais s'écarter de ses commandements de Dieu, car c'est là qu'est le chemin, la vérité et la vie. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre vie de vivre de grosses trahisons. Quelque chose de terrible qui vient vous couper le souffle, qui vous brise le cœur. Un coup de poignard dans le dos, comme le dit l'expression. Cela peut être aussi bien sur un plan personnel, familial, professionnel. À ce moment-là, c'est difficile d'aimer. C'est une lutte contre la chair, contre ses propres émotions, contre sa propre colère aussi. Et moi, une fois, ça m'est arrivé. C'était un déchirement. Vraiment difficile, mais à ce moment-là, contre toute attente, je n'en ai pas voulu à la personne qui était responsable. J'ai ressenti quelque chose d'étrange, j'ai ressenti que l'ennemi me riait au nez. J'ai eu cette sensation étrange que ça plaisait à quelqu'un de me voir comme ça. Et je vous parle de ça, c'était bien avant de connaître le Seigneur, c'était bien avant d'avoir donné mon cœur au Seigneur. Et je pense que ce jour-là, le Saint-Esprit m'a révélé ce qui se cachait derrière cet événement douloureux. Et je peux dire merci Seigneur. C'est une grâce de Dieu de comprendre cela à ce moment-là. Car rien n'est caché devant la puissance de Dieu. Et moi je suis peut-être faible, mais comme le dit Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens, lorsqu'il a prié trois fois, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Jésus aussi a connu cela. Il a été trahi par un de ses disciples. Il a été aussi renié, il a été dénigré. On a dit de lui qu'il avait des démons alors qu'il a toujours rendu gloire au Père. Il a été torturé alors qu'il était innocent. Et Jésus a été transparent. Il a dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais ce qui fait la force de Christ derrière de telles situations, c'est son pouvoir de pardonner. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. C'est le même Jésus qui a dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Le pardon de Dieu et le pardon des hommes sont intimement liés. C'est la prière du Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. L'amour parfait de Dieu, c'est un apprentissage du quotidien, et il n'y a qu'en laissant le Saint-Esprit prendre vraiment le contrôle en nous que l'on peut y parvenir, pour pouvoir aussi tout pardonner. Et dans la suite de la première épître de Jean, nous lisons « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. De la même manière, l'amour de Dieu est intimement lié à l'amour des hommes. Alors dans ce temps qui nous reste, j'aimerais vraiment qu'on puisse passer un temps avec le Seigneur, en introspection dans notre jardin intérieur. Et dans ce jardin, je suis sûr, je suis persuadé qu'il y a des fleurs magnifiques. Je suis persuadé qu'il y a une rivière d'eau pure, qu'il y a aussi un rocher, une pierre angulaire sur laquelle tout est bâti, qu'il y a la parole de Dieu dans notre jardin. Mais peut-être aussi qu'il y a quelques ronces dans ce jardin, peut-être qu'elles étaient cachées. Elles sont peut-être passées inaperçues et elles peuvent être douloureuses. Et je pense que le Seigneur souhaite que ce jardin qu'il partage avec nous soit rempli des beautés de l'Éden, soit rempli des délices, des parfums de bonne odeur, rempli d'un amour parfait. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse passer quelques minutes dans le silence pour faire le point. S'il y a des choses à déposer au pied de la croix, eh bien qu'on balance tout. Quand Jésus parlait aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Et il leur dit si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Donc s'il y a des réconciliations dans les cœurs à initier, s'il faut pardonner, demander pardon parfois même envers soi-même, que cela soit fait sans plus attendre parce que nous ne pouvons pas traîner de fardeau. Jésus les a tous portés à la croix. Vous savez, comme le dit ce chant, je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, eh bien, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et pendant ce message, si le Saint-Esprit vous a mis des choses en tête, des situations, ben, je vous encourage à les approfondir avec lui, peut-être aussi à demander au Seigneur comment il veut qu'on réagisse face à ces situations. Et puis, s'il n'y a rien de spécial, eh bien, je vous encourage toujours à demander s'il n'y a pas des ronces qui traînent. Et le Saint-Esprit mettra en lumière tout ça. C'est peut-être dans la journée, c'est peut-être dans les prochains jours. Peut-être qu'on tombera sur une personne qu'on n'a pas vue depuis longtemps. Dieu sait. Mais s'il y a quelque chose, n'attendons pas que nous puissions toutes et tous être dans l'obéissance. Et qui sait, peut-être que tout cela, ce sera l'occasion de partager la bonne nouvelle à quelqu'un. Parce que le Seigneur veut que tous soient sauvés, c'est sa volonté, la plus profonde et la plus grande preuve de son amour parfait. Saint-Esprit, merci. Nous nous remettons devant toi et nous te laissons agir, Seigneur. Nous voulons faire le point avec toi, Seigneur. Viens nous visiter.